À ce trait de noirceur, qui avait si bien prévenu en notre faveur, je reconnus facilement qu'il venait des jésuites, qui avaient semé ce bruit pour nous mettre en horreur et exécration dans la ville de Rouen, où il y a de beaucoup de bons réformés. Dans cette idée, je me mis à converser avec ce geôlier. Je lui racontai notre petite histoire et lui dis la raison pour laquelle nous allions de Dunkerque à Marseille. Sur ce propos, notre capitaine d'armes arriva dans le cachot pour nous faire donner notre étape. Le geôlier le tira à part et lui demanda si nous étions aussi dociles que nous le paraissions. « Oui, certainement, dit le capitaine. J'entreprendrai de les conduire moi seul par toute la France et tous leurs crimes et les truguenots. » « N'y a-t-il que cela, dit le geôlier. Les plus honnêtes gens de Rouen sont de cette religion. Je ne l'aime pas, ajouta-t-il, mais j'aime les personnes qui en sont, car ce sont de braves gens. » Et s'adressant à nous, il nous dit « Vous séjournez ici demain, j'aurai soin d'avertir divers de vos gens qui ne manqueront pas de vous venir voir et mes portes leur seront toujours ouvertes. » Il ordonna ensuite à ses guichetiers de nous déférer et de nous laisser seulement nos chaînes ordinaires pendant qu'il nous allait chercher des rafraîchissements. Le lendemain, il nous tint parole et nous amena plusieurs personnes de la religion réformée qui bientôt rendirent publique la nouvelle de notre arrivée. De sorte que ce jour-là, notre cachot qui était assez grand ne les emplit pas. Ce fut là que le père de cette demoiselle du Havre de Grâce nous apporta la collecte dont j'ai parlé ci-dessus. Je n'ai jamais vu de personne si zélée que ces messieurs de Rouen. Ils nous rendaient confus par les éloges même outrés qu'ils donnaient à la constance de notre foi. Ils nous exhortaient d'une façon si pathétique à la persévérance que nous ne pouvions retenir nos larmes. Leur ardeur fut si grande qu'une partie de ces messieurs voulait absolument, après en avoir demandé la permission au capitaine d'armes, nous conduire publiquement à notre départ jusqu'à une lieue de la ville pour nous aider à porter nos chaînes sur leurs épaules. Ce que nous ne voulûmes jamais souffrir, tant par l'humilité dont nous faisions profession, que pour leur épargner de s'attirer de mauvaises affaires. Nous partîmes donc de Rouen, toujours en chariot. Je ne puis assez exprimer les bontés que nous témoigna notre capitaine pendant cette route, car outre les gratifications qu'il reçut à Rouen de nos amis, il se persuadait fermement que nous étions des saints favorisés de Dieu et que nous avions le don de prophétie. Lorsque l'Argousin prenait ses précautions ordinaires, soit en visitant nos chaînes ou autrement, il lui disait qu'il prenait les soins inutiles et que nous voulions bien aller volontairement où le roi voulait, qu'autrement, ni ses précautions, ni toutes celles des hommes ne nous sauraient tenir. Nous avions beau le vouloir désabuser de cette opinion, nous ne pouvions le dissuader qu'il y avait en nous du surnaturel. Ce fut le 17 novembre 1712, sur les 3 heures de l'après-midi, que nous arrivâmes à Paris. Nous descendîmes devant le château de la Tournelle, qui était autrefois une maison de plaisance de nos rois, et qui sert présentement de lieu d'entrepôt aux malheureux, condamnés aux galères pour toutes sortes de crimes. On nous fit entrer dans le vaste mais lugubre cachot de la grande chaîne. Le spectacle affreux qui s'y présenta à nos yeux nous fit frémir, d'autant plus qu'on nous allait joindre aux acteurs qui le représentaient. J'avoue que, tout accoutumé que j'étais au cachot, entraves, chaînes et autres instruments que la tyrannie ou le crime ont inventés, je n'eus pas la force de résister au tremblement qui me saisit et à la frayeur dont je fus frappé en considérant cet endroit. Ne pouvant en exprimer toute l'horreur, je me contenterai d'en donner une faible idée. C'est un grand cachot, ou pour mieux dire une spacieuse cave, garnie de grosses poutres de bois de chêne, posées à la distance les unes des autres d'environ 3 pieds. Ces poutres sont épaisses de 2 pieds et demi et sont rangées et attachées de telle sorte au plancher qu'on les prendrait à première vue pour des bancs, mais qui ont un usage beaucoup plus incommode. Sur ces poutres sont attachées de grosses chaînes de fer, de la longueur d'un pied et demi, et à la distance les unes des autres de 2 pieds. Et au bout de 2 de ces chaînes est un collier de même métal. Lors donc que les malheureux galériens arrivent dans ce cachot, on les fait coucher à demi pour que la tête appuie sur la poutre, alors on leur met ce collier au col. On le ferme et on le rive sur une enclume à grands coups de marteau. Comme ces chaînes à collier sont distantes les unes des autres de 2 pieds, et que les poutres en ont la plupart 40 de longueur, on y enchaîne 20 hommes à la file, et aux autres à proportion de leur grandeur. Cette cave faite en rond est si grande qu'on peut y enchaîner de la manière sudite jusqu'à 500 hommes. Il n'y a rien de si affreux que de voir l'attitude et la posture de ces malheureux ainsi enchaînés. Car figurez-vous qu'un homme ainsi attaché ne peut se coucher de son long. La poutre sur laquelle il a la tête étant trop élevée, ni s'asseoir et se tenir droit, cette poutre étant trop basse, si bien que je ne puis mieux dépeindre la posture d'un tel homme qu'en disant qu'il est à demi couché et à demi assis, partie de son corps sur les carreaux ou planchers, et l'autre partie sur cette poutre. Ce fut aussi de cette manière qu'on nous enchaîna, et tout endurci que nous étions aux peines, fatigues et douleurs 3 jours et 3 nuits que nous fûmes obligés de passer dans cette cruelle situation, nous avait tellement roué le corps et tous nos membres, que nous n'en pouvions plus. Surtout nos pauvres vieillards qui s'écriaient à tout moment qu'ils se mouraient, qu'ils n'avaient plus la force de supporter un pareil supplice. L'on me dira peut-être ici comment ces autres misérables que l'on amène à Paris des quatre coins de la France et qui sont quelquefois obligés d'attendre 3 ou 4, souvent 5 ou 6 mois, que la grande chaîne parte pour Marseille, peuvent-ils supporter si longtemps un pareil tourment ? À cela, je réponds qu'une infinité de ces infortunés succombent sous le poids de leur misère, et que ceux qui échappent à la mort par la force de leur constitution souffrent des douleurs dont on ne peut donner une juste idée. On entend dans cet antre horrible que gémissement, que plainte lugubre, capable d'attendrir tout autre que les gens féroces commis pour la garde de ce terrible lieu. Les plaintes sont un soulagement pour les malheureux, mais on note encore cette douceur aux esclaves dignes de pitié qui y sont enfermés. Car toutes les nuits, 5 ou 6 bourreaux de guichetiers font la garde dans ce cachot, et se ruent en miséricorde de ceux qui parlent, crient, gémissent et se plaignent, les assommant avec barbarie à coups de nerfs de bœuf. À l'égard de la nourriture, ils l'ont assez bonne. Des espèces de béguines, que l'on nomme sœurs grises, y apportent tous les jours à midi de la soupe, de la viande et de bon pain qu'on leur donne suffisamment. À propos de ces béguines, il faut, pour désennuyer un peu mon lecteur, que je raconte ici un trait de la mère supérieure de celle qui desservent la prison de la Tournelle. Leur congrégation n'est pas fort ancienne, et a pour fondateur celui des pères de la mission. Leur fonction est de servir les pauvres des paroisses de Paris, à qui elles portent tous les jours le nécessaire, leur donnant même les médicaments dont ils peuvent avoir besoin. Elles ont, outre cela, la direction de plusieurs hôpitaux, surtout de ceux qui sont fondés pour les militaires, et par leur règne, elles sont obligées de visiter les prisonniers et de les soulager. Dans quelques endroits, elles sont aussi chargées d'instruire les jeunes personnes de leur sexe. On va bientôt juger par ce que je vais dire si elles en sont bien capables. La mère supérieure, qui venait tous les jours dans notre cachot pour distribuer la soupe aux galériens, s'arrêtait toujours un quart d'heure avec moi et me donnait plus à manger que je n'en avais besoin. Les autres galériens m'enraillaient souvent en m'appelant le favori de la mère abbesse. Un jour, après m'avoir donné ma portion, elle me dit entre autres choses que c'était bien dommage que nous ne fussions pas chrétiens. « Qui vous l'a dit, ma bonne mère ?» lui dis-je. « Nous sommes chrétiens par la grâce de Dieu. » « Eh oui, dit-elle, vous l'êtes, mais vous croyez à Moïse. »« Ne croyez-vous pas, lui demandai-je, que Moïse était un grand prophète ?»« Moi, dit-elle, croire à cet imposteur, à ce feu prophète qui a séduit tant de juifs comme Mahomet a séduit les Turcs ?»« Moi, croire à Moïse ?»« Oh que non, grâce au Seigneur, je ne suis pas coupable d'une pareille hérésie. » Je haussai les épaules à un discours aussi ridicule et me contentai de lui dire que ce n'était pas le lieu ni le temps de discuter cette matière, mais que je la priais seulement de se confesser de ce qu'elle venait de dire, et qu'elle verrait que son confesseur lui dirait certainement, s'il était plus savant qu'elle, que ce qu'elle avait dit de Moïse était un très grand péché. L'on peut juger à présent si ces bonnes filles sont en état de donner des instructions à la jeunesse.